ici Paris, Radiodiffusion française. Voici le journal parlé, édition complète du soir.
Le 9 mai 1945, au lendemain de la capitulation allemande, le journaliste Bernard Gandré-Réty évoquait au micro de la RTF l'un des mots clés de la déportation.
Arbeit. Ce mot de travail est devenu comme une onomatopée de maniaque, le mot de passe et le mot d'ordre de toute l'Allemagne hitlérienne.
Derrière le mot travail, les nazis ont dissimulé la détention, la répression et l'extermination.
Là où l'hitlérisme s'est surpassé dans son action totalitaire de servage, dans son viol permanent du droit des gens, c'est quand il parquait dans ses bagnes pour les épuiser à des tâches dédiées à la cause de la Grande Allemagne, les centaines de milliers de déportés politiques de tout pays. Ça, c'est la grande idée du règne hitlérien, et aussi la nouveauté diabolique qu'il a introduit dans la vie internationale moderne, et aussi son grand crime.
Entre 1940 et 1945, derrière le mot « Arbeit », s'accumulent des millions de déportés éreintés, torturés ou assassinés.
Derrière la volée triomphale, il y a partout un glas pesant qui teinte. Écoutons bien, c'est l'heure des funérailles. De ceux qui n'en eurent point, assassinés dans les chambres de torture, ou qui, dans tous les Auschwitz et tous les Buchenwald, sont partis en fumée.
Dans ce nouvel épisode, nos trois personnages vont emprunter la route qui va les mener vers l'Allemagne nazie et ses camps de concentration. Souvenez-vous, Edmond Michelet, le résistant gaulliste, Gisèle Guillemot, la rebelle communiste, et Denise Kahn, la jeune juive alsacienne, ont été arrêtés par la police française ou par la Gestapo. Trois Français emprisonnés, pris au piège de l'occupation allemande et qui vont connaître le sinistre destin de la déportation. Alors, à quoi ressemble leur voyage vers le camp de Dachau, la prison de Lübeck ou le complexe d'Auschwitz? Eh bien, vous allez constater qu'il existe de nombreuses subtilités dans le périple d'un déporté.
À vous qui m'écoutez, auditeurs fidèles de notre radio libérée, nous souhaitons que ceux d'entre vous qui ont été sinistrés retrouvent bientôt un toit et un foyer, et que bien vite se cicatrisent les blessures et que se relèvent les rues.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Déportés. Deuxième épisode, la déportation.
Nous pénétrons maintenant dans l'enceinte du camp que nous allons visiter en essayant de vous en dépeindre aussi sobrement que possible l'austère et l'atroce tableau.
J'ai vu, alentour de ce camp d'Achao, des rescapés au visage transparent se traîner vers le soleil et tomber sur la route.
L'immense cortège des ombres qui survivait encore se leva sur ses jambes flagellantes.
Le 15, vers 1h de l'après-midi, nous avons vu arriver la première voiture de radio qui nous annonçait en trois langues, français, russe et allemand, que le camp se trouvait désormais placé sous le contrôle britannique.
On n'avait même pas la force d'être heureux.
Mais tous ceux qui ont été libérés à Auschwitz ont une seule volonté, parler pour qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz.
Le récit débute en Bavière, au printemps 1933. Hitler est au pouvoir depuis moins de 2 mois. Et son entourage cherche par tous les moyens à asphyxier les opposants du nouveau régime.
Les prisons sont pleines à craquer. Et leurs épouses créent un scandale international. On ne peut ni juger ni libérer ces hommes.
Les camps.
Quoi ?
Pourquoi pas les camps, Goebbels ?
Et donc, le 20 mars 1933, le chef de la SS, Heinrich Himmler, annonce la création du premier camp de concentration à Dachau. Nous sommes à 17 km au nord-ouest de Munich. Dans les mois qui suivent, dès l'année 1933 donc, plusieurs camps de ce type ouvrent en Allemagne. Avec quelle utilité ?
Alors, les camps ont plusieurs finalités. La première finalité, c'est de neutraliser des opposants ou supposés comme tels.
Olivier Wiewiórka est historien.
Donc, on va interner des ennemis du Reich, les socialistes, les communistes. Le pouvoir nazi va également interner des indésirables, les juifs notamment, mais aussi des asociaux, des criminels, des témoins de Jéhovah, bref, des déviants qui sont considérés comme une menace pour le Troisième Reich.
Herbert ! Herbert ! Ils sont là, ils viennent vous arrêter. Vous n'avez pas un instant à perdre. Prends bien soin des enfants.
Oui, mon chéri, t'inquiète pas. Non, pas par là. Vite.
Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Martin Niemöller, 1946.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont internées avant-guerre en Allemagne ?
Oui, donc ce qu'il faut voir, c'est que nous avons une population internée dans les camps de concentration qui est nombreuse, mais qui n'a rien à voir avec les centaines de milliers qui seront la réalité du système concentrationnaire nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1934, vous avez 2400 internés. En 1937, pour être très précis, 7746. À la mi-novembre 38, 50 000. 50 000, c'est quand même beaucoup hein, pour une population en gros de 80 millions d'habitants, sachant qu'il y a aussi des prisons, hein, il faut le souligner. Et, phénomène intéressant, ce chiffre redescend à 21 400 au 1er septembre 1939, ce qui veut dire que l'on entre dans un camp de concentration, mais que l'on peut aussi en sortir et que l'on n'y meurt pas systématiquement, ce qui en revanche est le cas pendant la Seconde Guerre mondiale.
Herbert sera arrêté avant que le jour se lève.
Lui fera-t-on un procès ? Y a-t-il des charges précises contre lui ?
Je ne crois pas qu'autant de formalités soient nécessaires.
Alors, est-ce que la société allemande, dans les années 30, connaissait l'existence de ces camps ?
L'existence des camps est connue et elle est d'autant plus connue que le régime n'en fait pas mystère. Vous avez eu des reportages dans la presse allemande qui vantent, dans une certaine mesure, les réussites des camps, qui sont donc, aussi paradoxales que cela puisse paraître, une forme de vitrine du régime. Le régime n'a absolument pas peur de les montrer. D'ailleurs, quand vous prenez un camp comme Dachau, il est très près de la ville de Munich. Donc la population connaît l'existence de ces camps.
Et sachez qu'en France aussi, on avait connaissance de ces camps nazis avant la guerre. Notamment parce que Marie-Claude Vaillant-Couturier, jeune photographe reporter communiste, a effectué un voyage en Allemagne durant lequel elle a travaillé clandestinement. Une expérience qu'elle a racontée sur France Culture en 1985.
C'était à Pâques 33, c'est-à-dire très peu de temps après la prise de pouvoir d'Hitler. Et entre autres photos, j'avais photographié l'entrée du camp de Dachau et le camp d'Oranienburg. Et on pouvait voir à travers les grillages, ce lundi de Pâques, des familles qui étaient venues voir des emprisonnés. Donc je savais qu'il y avait des camps de concentration en Allemagne.
Achtung! Marche!
Journal L'Humanité, le 12 septembre 1933. Combien de camps de concentration ? Combien de détenus dans ces camps ? Le gouvernement allemand se garde bien d'en rendre compte. Parmi les prisonniers des camps, on trouve toutes les opinions, toutes les professions, tous les âges mêlés. Communistes, anarchistes, sociaux-démocrates, gens du centre, pacifistes, juifs. Ouvriers, jeunes et vieux, savants, artistes, étudiants, députés, avocats, médecins, écrivains, petits commerçants, des gens célèbres et des inconnus, sympathisants et militants.
Extinction du feu !
Une fois la guerre déclarée et la France occupée, ces camps de concentration nazis prennent une autre dimension. Ils vont d'abord servir à placer en détention un certain type de déporté.
La déportation non raciale, dite politique, dite de répression, va devenir un mode de gestion de la part des autorités occupantes pour régler les problèmes qui peuvent se poser à elles en termes de maintien de l'ordre, en termes bien évidemment surtout de gestion de la résistance, de répression de la résistance.
Samantha, quel est ton rôle dans la résistance, hein?
Donc, face aux actes de résistance, les camps nazis servent à réprimer celles et ceux qui défient l'autorité allemande sur le territoire français. Et c'est là que nous reprenons le récit de nos trois personnages. D'abord, commençons par Edmond Michelet. Rappelez-vous, père de famille, résistant gaulliste, affilié au mouvement Combat, Edmond Michelet a été arrêté à Brive le 25 février 1943.
Ils sont là. Ils sont à leur OMS. Mets en l'air, Endo.
Police allemande, vous avez une réunion ici.
Et après avoir été détenu à la prison de Fresnes, Edmond Michelet est donc condamné à la déportation.
Plus de 2000 personnes sont entassées dans des wagons à bestiaux. Ce long convoi qui traverse l'Allemagne se dirige vers le camp de concentration de Dachau.
Edmond Michelet arrive au camp de Dachau le 15 septembre 1943.
Il part de la gare de l'Est le 30 août. Et vous l'avez dit, il arrive à Dachau le 15 septembre. Ça veut dire qu'il va y avoir un très long périple entre son départ de Fresnes et son arrivée à Dachau.
L'historien Laurent Douzou.
Il va d'étape en étape, sans bien savoir quelle est sa destination, et il y a un de ses co-détenus qui lui dit, in fine, on va aller à Dachau, qui est une sorte de sanatorium. Donc ça veut dire qu'il va arriver à Dachau, pas du tout préparé à ce qu'il va devoir affronter. Il ignore ce que recouvre exactement l'appellation de Dachau, même s'il en a entendu parler. Parce que, en 39 et en 40, il a accueilli des réfugiés allemands.
J'ai très peu de choses à dire. Elisabeth et les enfants ont pris le train pour Salzbourg au matin du 19 juin. Elles n'y arrivèrent jamais. Vous savez où elles ont échoué? À Dachau. Tout cela était bien combiné.
Et le camp de Dachau est un mystère pour personne. C'est le premier camp de concentration qui a été ouvert sous le règne nazi. Il y a eu des reportages sur ce camp, donc il est connu. Mais entre connaître le nom d'un camp, savoir qu'on y rassemble des opposants au régime et savoir ce qu'est la réalité de Dachau, il y a un gouffre.
Dans cette foule, un jeune père de famille nombreuse ne sait pas que son destin passe par là. Le nom d'Edmond Michelet s'efface sous le matricule 52 579.
Et donc, rien ne le prépare à cette arrivée. Comme la plupart des déportés, il va découvrir ce qu'il appelle dans Rue de la Liberté une déconcertante cour des miracles. Et c'est quand même, ça dit bien le sentiment qu'il a ressenti. Alors la procédure d'arrivée, elle est bien connue. On les déshabille. On les dépouille de tous les objets qu'ils portent. Lui arrive à avoir un petit livre de prières qu'il peut garder, mais c'est tout. On les tond, on les badigeonne au Crésil, on les passe à la douche. Et il dit, c'est la première impression d'un immense dénuement. Vous voyez là, avant même d'entrer dans la réalité du camp, cette première phase, c'est une phase d'une extrême brutalité. D'autant qu'il dit qu'il se trouve en pays étranger dans le double sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'est plus chez lui et il ne parle pas la langue allemande.
Depuis quand tu es là?
Je ne me souviens plus.
Michelet va être affecté à un bloc dont le chef de chambre s'appelle Willy Bader et c'est un communiste allemand qui porte le matricule 9. Donc il est depuis mars 1933 au camp de Dachau. Il connaît intimement le camp, il ne survivra pas au typhus. Évidemment, il va expliquer un certain nombre de choses à Edmond Michelet. Et comprenant vraiment qui est Michelet, l'un des tout premiers résistants déportés à Dachau, résistant français, il va faire en sorte que Michelet puisse échapper au commando. Le commando, c'est le groupe de travaux, en quelque sorte, les plus durs. Alors Edmond Michelet a eu diverses tâches. Il a été principalement chargé de la désinfection. C'est-à-dire qu'avec son ami Joseph Rovan, ils avaient un petit pot, ils avaient un pinceau, ils avaient du Crésil et ils allaient d'un endroit à l'autre du camp, par exemple en badigeonnant les poignées de porte, enfin en désinfectant les déportés qui arrivaient. C'était une très très bonne fonction pour Michelet, ça permettait de se déplacer dans le camp. Parce que se déplacer dans le camp, ça pouvait vous mettre en danger de mort. C'est-à-dire que le camp était étroitement surveillé. Si quelqu'un se déplaçait sans raison, on pouvait l'arrêter, séance tenante, le rouer de coups ou l'abattre. Donc Michelet a eu cette fonction-là. Il est aussi gardien de nuit au Revier, c'est-à-dire à la très mal nommée infirmerie du camp. Je dis très mal nommée parce que l'hygiène est absolument déplorable. Mais en face, c'est un endroit où quand les gens sont à bout de force, on peut quand même tenter de les faire aller avec l'espoir qu'ils pourront se rétablir. Quelquefois, ça hâte leur mort, mais c'est quand même un lieu particulier. Donc être gardien de nuit du Revier, c'est un poste qui est moins exposé que d'autres. Pourquoi il a ces postes-là? Parce que très tôt, Michelet apparaît comme un homme qui développe une très forte autorité morale au sein du camp. Ça, c'est très important parce que les Français étaient très mal vus.
Edmond Michelet, dans Rue de la Liberté, 1955. C'est un fait qu'en septembre 1943, nous étions à Dachau méprisés, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Cette situation qui nous parut intolérable avait plusieurs causes. Les Tchèques, même les plus ignorants, nous reprochaient Munich. Les Polonais nous attribuaient leur effondrement de septembre 1939. Les Allemands eux-mêmes, tous ennemis du régime qu'on pu les supposer, puisqu'ils étaient là, conservaient à notre égard une supériorité de vainqueur. Personne ne semblait avoir entendu parler d'une résistance française. Notre humiliation était totale.
Quand il est arrivé au camp, en septembre 1943, les Français y avaient une réputation détestable. Et puis il y avait de façon plus générale l'idée très répandue que les Français étaient des gens incontrôlables, sales, très importants au camp, des gens qui ne se lavaient pas comme il fallait. Bref, des gens dont il fallait se méfier. Et ce jugement s'appliquait essentiellement à des droits communs, qui étaient par exemple des travailleurs volontaires partis en Allemagne, qui s'étaient battus avec leur contremaître et qui se retrouvaient à Dachau. Et l'arrivée de Michelet, puis de ses camarades, change la donne. Parce que Michelet très très vite fait comprendre qu'il a des accointances en France, par exemple, au sein du haut clergé, qu'il connaît des ecclésiastiques de haut rang, qu'il est là parce qu'il a été résistant et non pas pour des crimes de droit commun. Et donc, ça va changer très très profondément le regard que les autres détenus portent sur Michelet, mais plus généralement le regard qu'ils portent sur les détenus français. Parce que Michelet a une très grande singularité, il ne veut pas distinguer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire que Michelet va pratiquer ce qu'il appelle joliment, en empruntant le terme à la Révolution française, l'amalgame. C'est-à-dire que, oui, il y a des droits communs, et il n'a pas de sympathie particulière, a priori, pour un droit commun, mais le droit commun partage sa condition à Dachau. Et donc, ils doivent faire route commune. Donc, il n'y aura plus des droits communs méprisés et quelques politiques, il y aura un groupe qui formera une certaine homogénéité. Il ne faut pas exagérer cette homogénéité, bien entendu. Les barrières sociales ne s'effacent pas, les accents, tout ce que vous voudrez. Mais il y a quand même cette espèce de, j'emploie un terme religieux à dessein, d'œcuménisme de Michelet qui fait que tout le monde est dans le même bateau, et c'est un bateau très rude. Et donc, si on veut réussir la traversée, sortir de cet enfer, on le fera ensemble.
Témoignage d'Edmond Michelet, 1970.
Il est hors de doute que sans les droits communs français, qui nous avaient mis au courant d'un certain nombre de renseignements précieux, ce procureur en particulier, ce que nous appelions du rabio de nourriture, comment s'y prendre pour mieux se vêtir, sans ces renseignements de ces bons vieux droits communs que j'aime bien, eh bien, indiscutablement, nous ne serions pas rentrés de Dachau.
Résumons. Après un long voyage de 15 jours dans un wagon à bestiaux, Edmond Michelet, 43 ans, découvre le camp de Dachau. Un camp situé en Bavière, ouvert par Himmler depuis plus de 10 ans déjà, et dans lequel ce père de famille corrézien entre sous le statut d'un déporté politique classique. Venons-en maintenant à notre deuxième personnage.
Je voudrais servir la France par n'importe quel moyen.
Je cherche quelqu'un pour dactylographier des rapports.
Il n'y a aucun problème.
Gisèle Guillemot, jeune résistante communiste, arrêtée le 9 avril 1943 et qui, elle, va être déportée sous un autre statut. Nous allons y venir.
Comment ça va?
Et toi?
Silence. Vous parlerez quand on vous interrogera.
D'abord, après son arrestation près de Caen, Gisèle Guillemot est jugée à Paris par le tribunal militaire de Lübeck, une juridiction spéciale qui s'est déplacée en France pour condamner Gisèle et ses complices.
Heil Hitler.
Avec quel verdict à l'issue du procès?
Alors un verdict très sévère, elle est condamnée à mort.
L'historien Fabien Archambault.
Ils sont 16 à être condamnés à mort, donc 14 hommes et 2 femmes, donc Gisèle et Edmond Robert, qui est une institutrice du Calvados, qui fait partie du réseau. Les hommes sont fusillés le 14 août 1943 au Mont-Valérien. Et elle échappe à l'exécution immédiate. Alors, généralement, c'est que les femmes ne sont pas exécutées sur le sol français. Elles sont déportées en Allemagne pour y être décapitées. Fire! Alors, sur le coup, Edmond et Gisèle ressentent ça comme une injustice. Parce qu'elles réclamaient dans la résistance qu'on ne fasse pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc, elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas le droit d'être exécutées en même temps que leurs compagnons. Et elles sont classées « Nacht und Nebel », donc « Nuit et brouillard ». Donc, c'était un statut qui a été créé par Hitler, un décret de décembre 1941.
L'histoire « Nacht und Nebel » demande une petite explication.
Témoignage de la résistante Germaine Tillion, 1987.
C'est une idée personnelle de Hitler, qui était exaspéré par les lenteurs de la justice militaire allemande. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on arrête les gens, on les fusille tout de suite. Or, les militaires allemands, ils voulaient faire les choses dans les règles. Ils voulaient bien fusiller les gens, tant et plus, mais ils voulaient les fusiller après jugement. Ça faisait partie de leurs idées de militaires. Alors, Hitler décide de faire cette catégorie de Nacht und Nebel qui sont immédiatement enlevés et emmenés en Allemagne. Effectivement, il y a eu des gens dans la catégorie Nacht und Nebel qui ont été traités d'une façon abominable, décapités à la hache, etc., etc., quand ils étaient envoyés dans une certaine direction et à un certain endroit. Puis d'autres, ils étaient envoyés ailleurs. Et là, arrivait une consigne quelconque. Pour nous, la consigne a été tout simplement de nous mettre dans un bloc à part en attendant qu'on statue sur notre sort.
C'est donc sous ce statut spécial de Nacht und Nebel que passent Gisèle Guillemot, 21 ans, et Edmond Robert, 31 ans, le 14 août 1943. Ce statut très particulier de déporté inclut aussitôt un transfert secret vers l'Allemagne. Ainsi, les deux jeunes femmes rejoignent la gare de l'Est, à Paris, direction la prison de Lübeck. À quoi ressemble ce voyage ?
Alors c'est un voyage incroyable. Ça dure 3 mois, 89 jours précisément. Alors ça dure aussi longtemps parce que en gros, le réseau ferroviaire allemand est très désorganisé du fait des bombardements. Et donc pour arriver à Lübeck, qui est dans le nord de l'Allemagne, c'est en gros à 100 km au nord-est de Hambourg, sur la Baltique, c'est un port. En fait, elle passe par tout le sud de l'Allemagne, Karlsruhe, Heidelberg, Weimar, Leipzig, Dresde, et ensuite ça remonte jusqu'à Lübeck. Voilà, ça met 3 mois pour faire ce périple. Alors, elles sont contentes de ça. Pour elles, ça veut dire que la guerre marche. Ça veut dire qu'en gros, ils en prennent plein la figure et qu'ils sont même plus capables de faire circuler des trains. Elles découvrent l'Allemagne, puisqu'en fait, dans toutes ces étapes, en fait, elles sont hébergées. Soit dans des prisons, soit dans des commissariats, soit chez des particuliers. Et le voyage ne se passe pas dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire quand elle quitte la France, c'est un convoi de déportés, donc c'est des wagons à bestiaux plombés. Mais elle, on a rajouté un dernier wagon parce que c'est des Narrtonnebel, au sens où c'est des prisonniers politiques, donc avec un statut différent.
Témoignage de Gisèle Guillemot, 2001.
C'est vrai que je n'étais pas anti-allemande parce que j'aimais leurs poètes, leur musique, et il me semblait que c'était possible ailleurs qu'en Allemagne, ce qui arrivait là, et j'avais bien raison, parce que tu sais que c'est vrai. Mais j'ai été très impressionnée par les paysages allemands.
La barbarie est sans frontières. Elle est partout. On ne sait pas comment se dresser contre. On ne sait pas.
Et elle rencontre plein de gens, en fait, dans ce voyage. Donc, par exemple, à un moment donné, c'est entre Karlsruhe et Heidelberg. Elles sont dans un wagon avec des étudiants tchèques opposants au nazisme, qui parlent français. Et y a quasiment une histoire d'amour qui commence entre Gisèle et Yann. Et en se quittant Heidelberg, il lui dit « Tâche de rester fidèle aux valeurs de la Révolution française ». À Weimar, elle rencontre Sofia, qui est une médecin soviétique, qui a été prisonnier à la bataille de Stalingrad. Elle leur parle du front de l'Est et d'Auschwitz, en disant, là-bas, il y a des chambres à gaz. C'est des camps d'extermination.
Ils leur ont rasé les cheveux. Ensuite, ils les ont conduits à travers un long couloir dans des bunkers avec des étoiles de David sur les portes et des écriteaux disant bain et salle d'inhalation. Et ils les ont gazés.
Et Gisèle Edmond se disent, bon, en gros, elle est en train de perdre la tête, elle raconte n'importe quoi.
Tu sais, c'est ridicule.
Moi non plus, je n'y crois pas.
Je n'arrive pas à y croire.
Alors, elles ont quand même un doute, c'est qu'à un moment donné, un de leurs gardiens dans un voyage en train leur dit, oh, vous verrez Lübeck, ça va, c'est pas Auschwitz. Donc, il y a une inquiétude, mais en se disant, mais de quoi il parle exactement? Alors, il y a un moment, il y a toujours ce courage, c'est-à-dire qu'elles considèrent que ce sont, finalement, que c'est normal qu'elles soient là. Le pays est occupé. Elles ont résisté, elles se sont fait arrêter, c'est normal qu'elles soient prisonnières. Elles n'imaginent pas un seul instant que puisse exister des choses comme Auschwitz ou les camps d'extermination.
Dans ce long périple vers la mer Baltique, Gisèle Guillemot et Edmond Robert font étape à la prison de Dresde. Une prison pour opposants politiques.
Et donc là, elles assistent en fait aux scènes de torture. C'est-à-dire toutes les nuits, il y a les prisonniers qui sont un par un torturés dans les sous-sols de la prison. On entend les cris. Et le lendemain matin, Edmond, pendant l'appel, face au chef de la prison, à SS, se plante devant lui, lui rappelle l'existence des conventions de Genève pour protéger les droits humains et se demande comment le pays de Goethe et de Schiller a pu basculer dans une telle sauvagerie. Et là, elle se fait tabasser devant tout le monde par le chef. Et en fait, elle ne se remettra jamais de cette blessure. Elle mourra dans le convoi de retour en 1945 à Stuttgart. Et donc là, il y a chez Gisèle l'idée que les nazis sont des bêtes féroces.
Sur la route de Lübeck, durant les 89 jours du voyage, Gisèle Guillemot et ses camarades passent de prison en prison, où systématiquement, l'accueil est le même.
Dans les prisons, quand on arrivait, les cellules étaient occupées par des prisonnières allemandes de droit commun. Et on était très, très mal accueillis. C'est vrai, c'était des mégères. Elles étaient grossières, méchantes, voleuses. C'était une torture morale. Elles nous empêchaient de nous laver. On était cinq femmes. Hein. Pendant 89 jours, on ne s'est pas quittés. Eh bien, on a vécu l'enfer avec ces bonnes femmes-là. C'est pour ça que je les appelle des mégères. Alors, quand on est arrivé à Danzig, c'était la même chose. Juste dans une prison, celle de Cracovie, où les prisonnières ont été très sympas, et où on a été gâtés par les prisonnières allemandes parce qu'on était des parisiennes. Voilà. Donc, du moment qu'on était françaises, on était forcément parisiennes et elles étaient éblouies. Mais d'ordre général, on n'était vraiment pas heureuses avec ces femmes. Et la même chose donc à Danzig. Et là, vers Noël, elles se sont miraculeusement attendries. Elles nous ont apporté des petits cadeaux. Un peu de gâteau, une pomme. Elles ont été attendries par Noël. Et le soir de Noël, les surveillantes ont fermé les lumières tard. Et elles ont chanté, elles ont dit la messe de minuit. Et les Russes se sont associés à cette petite fête-là de prisonnières, et aussi les Polonaises.
Après cet étonnant réveillon de Noël, durant ce voyage étrange de déportés nuit et brouillard, arrive ensuite le 31 décembre 1943.
Et la Saint-Sylvestre, elle passe à Stettin. En Pologne, les deux gardiens ont demandé à leurs femmes de préparer des victuailles pour quatre. Et donc, elles sont sur la plage à Stettin. Il y a un feu d'artifice qui est tiré. Donc voilà des moments en fait de solidarité avec des Allemands qui n'ont pas l'air d'être des nazis. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est un périple qui ne ressemble à rien de ce qu'elles avaient imaginé.
Et le voilà qui s'arrête encore une fois. Qu'est-ce qu'on voit ?
Une gare.
Et puis en janvier 1944, Gisèle Guillemot arrive enfin à destination et elle aperçoit la prison de Lübeck.
Alors c'est une forteresse, c'est une grosse prison où on travaille. Alors elle a été blessée à un moment donné, donc en gros elle échappe au travail et ça lui va bien. Elle est dans des cellules de 4 personnes, donc là avec des résistantes non communistes, donc en gros la règle c'est on parle pas politique.
En dehors de ce travail collectif, on avait des grandes, grandes discussions. J'avais comme compagne des filles extrêmement instruites qui évoquaient tous les grands penseurs allemands et bon, pour qui c'était un mystère total, cette espèce d'effondrement moral de l'Allemagne, le pays de Goethe, de Schiller, de Bach, de Beethoven, enfin tous ces gens, comment ce pays-là pouvait-il sombrer dans l'horreur comme ça? C'était un questionnement incessant qui n'a, à mon avis, pas encore trouvé de réponse malgré tous les écrits qui ont été consacrés à ce problème. Je ne pense pas qu'il y ait nulle part une réponse.
De son côté, notre troisième et dernier personnage, Denise Kahn, alsacienne, juive, a été arrêtée à Paris avec sa famille le 7 mars 1944.
Vous prenez des vêtements chauds, hein, ça pourrait vous servir.
Vous nous emmenez où ?
On s'active, là !
Le père, Sylvain, la mère, Suzanne, et les trois frères de Denise, Armand, Roger et André, ont tous été internés à Drancy, un camp de transit au nord de Paris, avant la déportation vers l'Est. Denise Kahn et les siens s'apprêtent à voyager sous le statut de déportés raciaux, une terminologie nazie pour désigner les Juifs. Le départ a lieu le 27 mars 1944 dans le convoi numéro 70. Denise Kahn a 16 ans.
Ce voyage vers la Pologne, il faut bien imaginer que c'est 3 jours dans des wagons à bestiaux, entassés.
Zoé Grimbert est historienne.
Donc elle, elle se souvient qu'ils sont tous poussés à bord d'un wagon. Alors ils s'assiedent par terre. C'est qu'ils ont réussi à s'asseoir, c'est pas toujours le cas. Parfois il y a trop de monde, on doit le faire en alternance. Et pendant 3 jours et 3 nuits, elle parle d'une horreur, d'un wagon bondé, de cris, de pleurs. Et surtout, ce qui la marque beaucoup, c'est l'odeur.
Si vous voulez savoir, dans les wagons, c'est une horreur.
Témoignage de Denis Kahn, 2006.
J'ai même vu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une fausse couche. C'était terrible, c'était vraiment une horreur. On était tous par terre, on était là. C'était terrible. Puis ces cris, c'était terrible. Ça, je m'en souviens, ça sentait très très mauvais. Mais c'est normal, quand on est 3 jours comme ça, il n'y avait pas de toilette là, il fallait, je crois, prendre un seau, quelque chose. C'était affreux, vraiment une horreur.
Il faut préciser une chose de très importante, Zoé Grimbert, c'est que Denis Kahn est une déportée raciale. Je dis ça parce que dans le personnage précédent, Gisèle Guimaud, qui est une déportée résistante, communiste, elle a eu le droit de voyager dans un wagon un peu normal. C'est pas un wagon à bestiaux plombés. Donc, essayons de raconter ce que c'est qu'une déportée raciale par rapport à une déportée politique. C'est vraiment important de faire la différence entre les deux parce que c'est vraiment deux statuts très différents dans la déportation.
Oui, alors, une déportée raciale, ça signifie concrètement qu'elle est déportée parce que juive. Mais ce qu'il faut noter pour les auditeurs et les auditrices, c'est que cette qualification n'a pas d'existence administrative après-guerre. Dans l'immédiat après-guerre, les institutions, les journalistes, la France dans l'ensemble, souhaiteraient englober l'ensemble de la déportation et des déportés dans un même discours qui en fait des martyrs, donc les juifs, les résistants. Ce qui, d'emblée, ne permet pas d'évoquer la différence de nature entre ces deux déportations. Parce que quand on est déporté comme résistant, on va entrer dans le camp. On entre dans le camp pour travailler dans des conditions et pour être mis à mort doucement. Mais on est quand même d'abord une main-d'œuvre punie pour des actes politiques. Quand on est déporté, selon les nazis, pour des raisons raciales, une partie de ces déportés n'ont aucune chance d'entrer dans le camp. En fait, ils n'entrent même pas dans le camp. On va directement à la mise à mort. Et une minorité, c'est le cas de Denise, on va le voir, entre dans les camps. Et le projet, c'est la mise à mort doucement après avoir fait travailler ces individus. Et en fait, en 1948, finalement, la législation va créer une différence entre deux types de déportation. La déportation des résistants et la déportation de ceux qu'on va appeler les politiques. Pourquoi on dit politique ? Parce qu'on ne veut pas reprendre la qualification des nazis, ce qu'on peut comprendre. Mais là encore, on passe sous silence la vraie nature de cette déportation. Et donc, Denise fait partie de ce qu'on appelle après-guerre, si on fait une réclamation, d'une reconnaissance de ces déportés politiques. Et en réalité, ça recouvre une raison raciale pour les nazis.
L'horizon de la plupart des déportés dits raciaux se résume donc à la mort.
Nos estimations nous indiquent qu'il y a 11 millions de juifs en Europe. Et la solution finale les concerne tous.
Tous ?
Le Führer a ordonné l'extermination physique de tous les Juifs.
En effet, à partir de janvier 1942, après la conférence nazie de Wannsee, au sud de Berlin, il est ratifié que tous les Juifs d'Europe seront directement conduits vers ce qu'on appelle communément des camps d'extermination. Mais le grand historien américain Raoul Hilberg désignait ces camps d'une autre manière. Et c'est ce que nous explique l'historienne Annette Wiewiórka.
Raoul Hilberg, il parle de centre de mise à mort. Qu'est-ce que ça veut dire un centre de mise à mort ? Ce n'est pas un camp, parce qu'il n'y a pas d'installation pour interner des gens. C'est en fait un terminal ferroviaire où on amène des juifs qui ont été arrêtés uniquement pour les mettre à mort par des moyens qui sont généralement un gazage, soit par des camions à gaz comme à Chemnau, soit par des moteurs comme à Treblinka, soit par le cyclone B comme à Auschwitz.
Vous estimez vos besoins à combien ?
Je n'estime pas. Je veux d'énormes stocks de Zyklon prêts à l'emploi et stockés dans un lieu unique et souterrain.
Les fournisseurs vont avoir du mal à suivre.
Vos fournisseurs, ces industriels qui crient « Heil Hitler » en se remplissant les poches. devrait se méfier. On peut arianiser les arianisateurs.
Et généralement, on compte 6 de ces centres de mise à mort. Rélmno, le premier en date. Sobibor, Belzec, Treblinka. Et 2 très compliqués qui sont Majdanek et surtout à Auschwitz. Pourquoi Auschwitz est compliqué ? Parce que Auschwitz, c'est un grand complexe qui allie un centre de mise à mort à Birkenau, où vont être construites 4 très grandes chambres à gaz couplées à des crématoires et où des Juifs vont être débarqués par train de toute l'Europe nazie. En même temps, un camp de concentration, puisque Auschwitz est créé en 1940 comme camp de concentration pour hommes polonais, et puis des camps de travail, puisque il y a un certain nombre de commandos installés notamment dans les mines de charbon. Auschwitz est dans le bassin minier de Haute-Silésie. Et puis il y a aussi cette grande usine construite par les détenus à Monowitz, l'usine de Liegefarben, qu'on appelle la Buna. Buna, ça veut dire caoutchouc synthétique en allemand, et qui est connue parce que c'est là que Primo Levi va être interné.
Primo Levi est transféré à Auschwitz-Birkenau le 22 février 1944. Le train de Denis Kahn et de toute sa famille arrive le long de la rampe à Auschwitz un mois plus tard.
En arrivant, en descendant, on nous a de suite séparés. Les hommes d'un côté, les femmes d'un autre côté. Hein.
Ça, vous en rappelez ?
Ça, je me rappelle très, très, très bien.
Parce que là, vous arrivez donc le 30 mars ?
Le 30 mars.
44.
44, oui. Oui, oui. Il y avait encore un peu de neige. Et ça, je m'en souviendrai toujours. La première des choses que j'ai faites, j'ai pris un peu de neige pour, parce que j'avais soif.
Ça, c'est sa première image. Ensuite, l'image, ce qu'elle évoque, c'est ce qu'évoque énormément de témoignages. C'est les cris des SS, les cris et aboiements des chiens, la dispersion, l'angoisse, les deux files, une file d'hommes, une file de femmes, pour être réparties, mais ça, on ne le comprend pas tout de suite. Donc la séparation des familles qui en résulte, mais aussi la séparation perçue comme temporaire avec la mère.
Maman !
Du calme, du calme. Vous allez tous être séparés en 2 grands groupes, bien sûr temporairement. Les femmes et les enfants de ce côté-ci, les hommes et les garçons qui sont âgés de moins de 14 ans de l'autre côté. Les personnes qui sont malades, trop fatiguées pour marcher, seront assistées. Laissez vos bagages, ils vous seront rendus plus tard. Formez les 2 groupes le plus vite possible.
Alors, ma maman était obligée de monter sur un camion. Et je vois encore le camion avec maman qui partait. Je le vois encore devant moi et je croyais bien sûr la retrouver un peu plus tard. Tandis que nous, on était obligés de marcher jusqu'à Birkenau.
Et sa mère, qui a 45 ans à ce moment-là, est mise sur un camion qui est censé arriver plus vite au camp. C'est ce qu'on fait croire aux déportés. En réalité, ce camion, il est réservé aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes avec enfants et aux personnes qui ne semblent pas assez robustes pour travailler. Et donc Denise dit à sa mère à tout à l'heure et lui fait un signe de la main et se retrouve dans cette colonne de femmes qui, elles, doivent marcher vers le camp. Donc elles marchent quand même, c'est 2-3 kilomètres, mais elles marchent environ 30 minutes. Et elles passent à côté de barbelés et elles se souviennent de cette vision de voir des détenues femmes en tenue rayée.
Témoignage de Denise Swapkan, 2013. Nous dûmes marcher dans la neige vers Birkenau. Nous marchions le long des hauts fils barbelés, derrière lesquels j'aperçus des femmes travailler dans des tenues à rayures. Je ne croyais pas ce que je voyais. C'était totalement fou. Nous fûmes forcés à pénétrer dans le premier baraquement où un numéro fut tatoué sur nos bras. Je reçus le matricule 76 217 et un triangle inversé. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Dans le baraquement suivant, nous dûmes tous nous déshabiller. Je n'avais brusquement plus de cheveux. J'avais tellement honte.
En arrivant, bien sûr, j'étais toute seule. Parce que j'avais plus de famille, j'étais vraiment perdue. Donc, on a fait le tatouage, on nous a rasés, et on nous a été obligés de se déshabiller. Jamais de ma vie, j'avais vu quelqu'un de nu, quoi. Parce que j'avais quel âge?
17 ans.
17 ans, à peu près, même pas. Et j'étais vraiment gamine. J'étais tellement protégée, j'avais peu de choses. Et quand je voyais tout ça, c'était une horreur. Tout le monde était nu. Et puis, il y avait les nazis avec leurs fouets, là, qui essayaient de battre quelqu'un ou de... C'était une horreur, je vois encore... J'ai jamais vu ça, c'était vraiment horrible.
Excusez-moi, vous avez été rasé partout?
Oui, partout, oui. Ouais, partout.
Et après le rasage, elles vont dans une sorte de sauna, c'est une forme de désinfection, nue. Bien sûr. Et là, en sortant de la désinfection, elles doivent choisir dans une pile de vêtements des vêtements qui leur iraient et qu'elles doivent mettre.
À peine arrivée au camp, Denise Kahn a été séparée de sa mère, Suzanne. Madame Kahn a été transportée en camion vers le camp de Birkenau, c'est-à-dire vers son assassinat immédiat. Alors, en quoi ces centres de mise à mort constituent l'aboutissement de la politique nazie? L'historienne Annette Wiewiórka.
L'idéologie nazie veut que la race, avec des guillemets, aryenne, avec des guillemets, soit la race des seigneurs et que la domination de cette race aryenne soit une domination qui doit durer 1000 ans, le Reich de 1000 ans. Quand on regarde ce qu'est l'idéologie nazie, on s'aperçoit, pour parodier Marx, que toute l'histoire est l'histoire de la lutte des races. Et il y a ceux qui n'ont même pas le droit d'être dans une classification humaine, ce sont les Untermenschen, les sous-hommes, ce sont les Juifs. Et il est considéré que il faut rendre l'Allemagne Judenrein, Judenfrei, propre de Juifs, libre de Juifs, pour pouvoir avoir ce Reich de 1000 ans. Et le grand historien Saul Friedlander définit l'antisémitisme nazi comme un antisémitisme rédempteur. C'est-à-dire qu'il faut éliminer les Juifs pour assurer la rédemption, ce Reich de 1000 ans. Alors, il faut bien voir que la solution finale n'arrive pas tout armée. C'est-à-dire que si on lit Mein Kampf, on dit tout était dans Mein Kampf, c'est vrai et c'est faux. Parce que pendant un certain temps, l'idée des nazis, ça va être de faire partir les Juifs. Ça va être la solution par l'immigration.
Nous pourrions commencer à l'Est. Qu'en pensez-vous?
On créerait d'immenses ghettos que dirigeraient les Juifs.
Le mot ghetto pourrait être mal interprété.
Qu'est-ce que vous suggérez alors?
Les territoires juifs autonomes?
Formidable.
Et c'est quand il y a tout à la fois l'échec de ces politiques migratoires et l'avancée vers l'Est qui fait que beaucoup de juifs tombent sous la domination nazie que petit à petit va se mettre en place l'idée que la solution finale de la question juive, je mets des guillemets, c'est l'assassinat, la destruction des Juifs d'Europe.
Parmi ces millions de Juifs exterminés durant la Seconde Guerre mondiale, Suzanne Kahn, 45 ans, mère de 4 enfants, et dont le seul tort aux yeux des nazis est d'être née juive.
Sa mère a été chargée sur ce camion et est allée en fait directement à la chambre à gaz, a été gazée et vraisemblablement brûlée ensuite, mais ça, Denise ne l'a pas compris tout de suite. En fait, avec ses camarades à qui elle est entrée dans le camp, elles sont mises en quarantaine pendant 15 jours. Et il lui faut quelques jours, elle se dit toujours qu'elle va retrouver toute la famille. Et au bout de quelques jours, elle comprend, alors elle précise pas comment. Généralement, ce qui apparaît dans les témoignages, c'est toujours cette même image. C'est des déportés qui connaissent le camp, qui montrent aux nouvelles arrivantes la fumée et qui disent « ta famille est là, elle s'est envolée ». C'est souvent raconté comme ça. Elle ne la raconte pas du tout comme ça. Comment elle l'a su, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle en a pris conscience et ça a été un choc terrible. Donc 17 ans, elle est seule, elle se retrouve dans un groupe de femmes qu'elle ne connaît pas. Et là, elle apprend que sa mère a été assassinée. Et en fait, elle s'effondre totalement.
J'attendais ma mère dans le baraquement de quarantaine. Le jour où j'appris qu'elle ne reviendrait plus, peut-être 2 ou 3 jours plus tard, je m'effondrais complètement. Je me sentais seule au monde, tellement abandonnée, tellement seule. J'étais comme abrutie. Je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais plus rien avaler et tomber malade de chagrin. Je fus alors transportée au Revier, la baraque des malades.
Et en fait, au bout de ces quelques jours, une infirmière juive du Revier vient la prévenir. Lui dire qu'il faut qu'elle quitte l'infirmerie, au risque d'être sélectionnée, ce qu'on appelle sélectionnée, c'est-à-dire pour les chambres à gaz dans les jours qui viennent. Et donc, elle a eu à ce moment-là un instinct de vie et elle a décidé de quitter l'infirmerie et de rejoindre le bâtiment de quarantaine où elle était encore censée être.
Donc je suis sortie, j'ai dit que je me sentais bien, et puis je suis retournée dans la baraque. Bon, et puis là, je suis restée avec tous les Français de mon convoi, du convoi 70.
En conclusion de ce deuxième épisode, retenez d'abord que les camps de concentration ont été instaurés en Allemagne à partir du printemps 1933. Dès l'origine, donc, tous les opposants intérieurs au régime nazi ont été séquestrés et ont subi de violents traitements de rééducation.
Tout le monde en Allemagne sait qu'on a établi une liste d'indésirables et on commence à liquider tous les opposants gênants, sans jugement ni publicité, avec toute l'Europe qui nous regarde.
Ensuite, une fois la guerre déclarée, ces camps de concentration ont servi à mater les opposants extérieurs au nazisme et le camp est alors devenu un moyen de répression de la résistance française. On y déportait tous les ennemis du nazisme, y compris et surtout les juifs.
En temps de guerre, il est naturel de mettre à l'écart ceux qui disent appartenir à une internationale dont le siège est un jour à Moscou et le lendemain à New York.
Et si je te disais que tous ces gens n'existent plus ?
Enfin, gardez en tête qu'il existe plusieurs statuts de déportés. On peut être un déporté résistant, comme Edmond Michelet, une déportée nuit et brouillard, comme Gisèle Guillemot, ou encore une déportée dite raciale, comme Denise Kahn.
T'es juive, hein ?
Oui.
Et alors ?
Quel que soit leur statut, après leur déportation, nos trois personnages vont devoir affronter la vie quotidienne de l'univers concentrationnaire. Une expérience dont on peine toujours à mesurer l'effroi.
À la fureur de meurtre dirigée inlassablement contre leur personne morale et physique, des milliers de déportés ont répondu par une volonté supérieure aux puissances du mal et de destruction, la volonté de vivre pour assister et participer si possible à la déroute des bourreaux et à l'écrasement du monstre.
Comment nos trois déportés ont-ils survécu au milieu des enfers ? C'est l'horizon du prochain épisode. Les Déportés, un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Bérangère Varluzel et Martine Abbat. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Prochain épisode, La Détention. Les Déportés est un podcast original de France Inter.